Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
This is why I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, désormais tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. Et ce soir, nous sommes tous en guerre. Pierre Louette, le patron des Échos et du Parisien, et il part en guerre contre Google. Vous avez mangé du lion, Pierre Louette. Pourquoi déclarer la guerre à Google ?
Alors d'abord, je suis pas tout seul, heureusement, on est plusieurs à
vous. Une armée mexicaine.
Une armée d'éditeurs qui voit une loi européenne adoptée, transposée en droit français, et des acteurs qui ont vraiment du mal à l'appliquer, semble-t-il. C'est ce dont on va parler.
Monica Gonzalez, elle nous arrive d'un état en guerre, ou en tout cas au bord de la guerre civile, le Chili, journaliste d'investigation star au Chili. Bonsoir madame, et merci d'être avec nous ce soir en studio à Paris. Guerre civile, état d'urgence, d'un mot, vous définiriez comment ce qui se passe au
Chili ? Pas du tout la guerre. C'est un peuple qui est en rébellion, qui dit on ne veut plus d'un système violent, inégal, et qui donne beaucoup, beaucoup de privilèges et d'impunité aux plus riches. Et qui se rassemblent dans la rue, d'une façon pacifique, mais très ferme.
On en parle avec vous dans quelques minutes. Le philosophe Gaspar Koenig part en guerre, lui, contre l'intelligence artificielle qui marquerait, Zoé Sfez, la fin de l'individu.
Mais là, lui aussi, il part pas du tout en guerre, le pauvre.
Finalement, personne n'est en guerre ce soir.
Le monde est très pacifique. Gaspar Koenig, qui est philosophe, qui est libéral, fondateur du think tank Génération Libre, publie donc ce livre, La fin de l'individu. Voyez-vous un philosophe au pays de l'intelligence artificielle. De quoi est-il question ? Lui, technophile, craint pourtant que le recours massif à l'IA nous prive de ce que le libéral en lui chérit le plus, à savoir notre libre arbitre, et donc il nous exposera les solutions qui, selon lui, pourraient nous permettre de vivre libre, mais avec l'IA.
Enfin, Maxime Chipoy, qu'on connaît bien dans cette émission pour avoir été l'un des porte-parole de l'UFC Que Choisir, part en guerre, lui, au nom des droits des consommateurs dans les banques, les transports, les télécoms. Beaucoup de conditions et de pénalités nous mènent à la vie dure, et plus encore d'ailleurs à l'âge numérique. Bonsoir Maxime Chipoy, à votre tour, vous voulez leur mener à eux la vie dure.
Alors effectivement, il y a beaucoup de nouveaux fronts qui s'ouvrent en cette fin d'année, puisque nous parlons seulement des banques, dont le gel des tarifs qui avait eu lieu cette année s'achève, puisque l'année 2020 approche bientôt. Et puis des nouveaux fronts qui s'ouvrent au niveau des transports, avec les grèves à la SNCF, et puis les difficultés vécues par de nombreux utilisateurs de l'avion.
Si on ajoute les Expos Léonard de Vinci, Bacon et le Greco et le nouveau Kanye West, un album comment dire christique, voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power.
C'est religieux,
ce dimanche. Voilà, on parlera de religion du coup ce soir. L'émission est réalisée par Sonia Leglen avec en régie Jean-Frédérics. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec, pour les réseaux sociaux, David Pata. Car vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Spotify Soft Power, ainsi que sur Instagram, Facebook, LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine, mais pas sur Google, hein, Pierre Louette. Hein, donc nous, on est en vous abonnant gratuitement au podcast. Podcast sur le site de France Culture, sur iTunes, sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme, c'est parti. Pour commencer cette émission, un focus sur l'exposition événement de l'année, sinon l'exposition de la décennie, à voir à Paris cet automne. Elle est intitulée sobrement Léonard de Vinci 1452-1519. Ils sont tous là, ces géants. Le Saint Jean-Baptiste, l'un des plus beaux tableaux de Leonardo, plus magnifique que jamais depuis sa restauration. La Sainte Anne, le Saint Jérôme pénitent, toujours inachevé. La Belle Ferronnière, la Vierge Rocher, les carnets sublimes et qu'on voit trop rarement. Les dessins, d'ailleurs une étude magnifique pour un Saint Sébastien et tant d'autres. Présent aussi au rendez-vous, j'allais dire au garde-à-vous, l'homme de Vitruve. Il est là lui-même, en personne. Il est rarement montré, même à Venise. Il ne restera visible que quelques semaines à Paris et pas toute la durée de l'exposition. Rien que pour ce dessin, la plume, encre et la vie de 34 cm sur 25 dans le symbole, hein, vous savez, un homme idéal parfaitement proportionné dans un cercle et un carré que tout le monde connaît et qui résume à lui seul l'histoire de la Renaissance, le rationalisme et l'humanisme. Rien que pour ce dessin, donc, le déplacement vaut le détour, surtout qu'on ne pourra peut-être pas le revoir de toute notre vie. Les œuvres viennent de partout, de Venise donc, mais aussi de Milan, des musées du Vatican à Rome, ou encore des collections privées de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, de la National Gallery à Washington ou du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et puis même d'Arabie Saoudite, ou d'ailleurs des Émirats Arabes Unis, on ne sait pas trop, pour le Salvatore Mundi, œuvre sans nul doute sortie de l'atelier de Léonard de Vinci, mais qui n'a peut-être pas été réalisée de sa main. C'est d'ailleurs ce que dit la notice dans l'exposition. Il est attribué à l'atelier, mais non pas à Leonardo. En tout cas, l'œuvre a été achetée 382 millions d'euros en 2017 par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Il rejoint Paris pour cette exposition. Seul manque à l'appel deux des plus beaux tableaux du monde. La scène, bien sûr, qui reste sur les murs du réfectoire d'une église de Milan, faute de pouvoir être décrochée. C'est une peinture murale. Et la Joconde, qui restait, elle, dans la salle, dans sa salle, elle-même restaurée, la salle des États au Louvre, où on peut la découvrir dans son tout nouveau écrin. Au XVIIIe siècle, les écrivains et les aristocrates français voyageaient pour aller voir les œuvres dans les musées étrangers. On appelait ça le voyage d'art et c'était un genre en lui-même. Aujourd'hui, c'est Leonardo da Vinci qui vient à nous au Louvre. C'est un événement, bien sûr, un progrès. C'est aussi un progrès technique car grâce à la réflectographie infrarouge, la genèse des œuvres du peintre apparaît au grand jour. Au Louvre, on peut voir les dessins originaux au carbone ainsi révélés sous les peintures. On suit sa pensée, on suit son trait, les différentes phases de son travail. Photographie sous ultraviolet, spectrométrie de fluorescence des rayons X, toutes les techniques sont bonnes pour entrer en conversation avec de Vinci et déchiffrer ainsi ses secrets. On peut même en 3D, via la réalité augmentée, croiser Mona Lisa et survoler les monts qui forment le décor naturel de la Joconde. Tout ça nous aide à comprendre le peintre.
Pour lui, la peinture, ce n'est pas seulement une copie du monde, c'est une compréhension scientifique et intime de la nature, de l'être humain et de l'ensemble du monde. C'est quelqu'un qui ne s'est pas contenté de l'extériorité des choses. Plus Léonard avance, plus il se concentre sur l'expression du visage qui doit, pour le spectateur, donner une sorte de vibration psychologique. Toute la force de l'image passe à travers l'expression du visage.
Voilà, un des conservateurs généraux du Louvre qui expliquait ce qu'ils ont fait et comment ils accompagnent également ces œuvres. Dire que tous ces tableaux français sont arrivés à dos de mule ou portés sous les bras par Leonardo lui-même en personne à travers les Alpes parce qu'un roi de France, François Ier, l'avait invité à rejoindre notre pays. Tout le mystère de l'art réside dans cette aventure singulière. C'est même trop facile de dire que l'exposition Vinci au Louvre est magnifique. Elle est juste unique. Léonard de Vinci au Louvre jusqu'au 24 février, uniquement sur réservation en ligne. Pour aller plus loin sur Léonard de Vinci, je recommande une biographie, celle de Walter Isaacson, parue récemment en français, un livre accessible et pédagogique, magnifiquement illustré. Voilà, France Culture, 18h21, dans l'actualité de la semaine après Léonard de Vinci, eh bien, il y a aussi l'exposition Zoé Sfez qui se trouve, elle, au Grand Palais, et là c'est El Greco.
Voilà, le Grand Palais qui accueille la première grande rétrospective consacrée en France à ce génie crétois. On est très fiers à France Culture d'en être partenaire. C'est très intéressant d'en parler et qu'elle ouvre en parallèle, en même temps que cette exposition de Vinci, parce que le Greco c'est un peu l'anti-Léonard de Vinci, et pourtant son génie, pour moi et pour bien d'autres, l'égal presque. On a une exposition avec 75 œuvres du maître grec, de son vrai nom Tominikos Theotokopoulos. Il est né en 1541 en Crète, donc, et il est mort en 1614 en Espagne. Ce Gréco-là, c'est le génie chéri absolu de Picasso, de Breton, de Cocteau. Et c'est l'anti-Léonard de Vinci. Pourquoi? Et bien parce qu'il a été complètement oublié. Alors, ces 75 tableaux qu'on peut voir au Grand Palais c'est véritablement quasiment, c'est inédit en France, c'est presque inédit dans le monde. Il n'y a pas l'enterrement du comte d'Orgaz, qui est probablement la toile la plus célèbre du Gréco, qui est restée dans son église à Tolède. Le musée du Prado de Madrid a refusé de jouer le jeu. Ça fait partie des grands débats et des grandes contrariétés diplomatiques liées à cette exposition. En revanche, on peut voir toutes les grandes toiles qui sont présentes aux États-Unis. Le Met de New York, hein, a prêté le portrait du cardinal de Nino de Guevara, qu'on voit très peu en France et qui est absolument extraordinaire. On a beaucoup de toiles qui viennent de Cleveland aussi. Pourquoi est-ce que je dis que le Gréco, c'est un anti-Léonard ? Léonard, c'est parce que cet homme qui naît en Grèce est formé aux icônes byzantines. Il vient d'une tradition extrêmement classique. Il part en Italie, on sait très peu de choses de sa vie. Il s'installe d'abord à Venise, puis il s'installe à Rome. Et comme il ne parle pas la langue et qu'il frappe pas aux bonnes portes, et qu'il est trop original et qu'il est sans doute trop arrogant, eh bien, finalement, cet homme n'arrive pas à s'imposer en Italie. Il est probablement d'ailleurs chassé du parler farnèse. Et on voit finalement, l'exposition le montre très bien, en revanche, son style d'iconiste s'enrichir de tout le travail des coloristes italiens. C'est très émouvant de voir comment, par exemple, dans certaines de ses toiles, il peint Raphaël et Michel-Ange comme un élève surdoué qui a envie d'égaler des maîtres qui, pour le moment, ne le regardent pas. C'est très intéressant aussi, pourquoi ? Parce que Gréco est un très mauvais dessinateur. On a très peu de dessins de lui, on en a 7, et on peut en voir 2 dans cette exposition. C'est un anti-Léonard de ce point de vue-là, dessin très peu intéressant. Tout se joue, en fait, chez lui par la couleur. On a aussi des velléités d'architecture chez cet homme. Pourtant, on ne connaît rien de travail d'architecture de lui. Il y a un très émouvant traité d'architecture de Vitruve, on parlait de lui, qui est annoté de sa main et qui est visible. On sent qu'il a voulu travailler dessus, mais c'est absolument pas ce qui s'est passé. Et c'est finalement en Espagne, et précisément à Tolède, que vers la trentaine, quarantaine, donc c'est tard, son génie peut s'épanouir. Il est reconnu comme un excellent portraitiste. On connaît peu les portraits de Gréco en France, notamment parce qu'on l'a dit, parce qu'ils sont essentiellement en Espagne et aux États-Unis. Et puis, ses œuvres religieuses, à partir de 1570, il multiplie tous ces chefs-d'œuvre qu'on connaît un peu mieux. Il affirme son style, il se radicalise complètement. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est ce que l'exposition permet de voir. Par exemple, on a toute une série de toiles de Jésus chassant les marchands du temple, de sa vingtaine jusqu'à ses 75 ans. Le thème revient et son style vraiment s'affirme. Et face à la toute dernière toile de cette exposition, la vision de Saint Jean, en fait, on a du mal à croire que cet homme est un homme qui vivait à la Renaissance. On se croirait devant une toile du XXe siècle. L'œuvre date pourtant de 1614. En fait, quand il meurt, Gréco, Caravage déjà est mort depuis 4 ans, et en fait, il n'a plus aucune communauté de style avec aucun des peintres qui travaillent à cette époque-là. C'est déjà l'art baroque. On lit sur le texte de l'exposition, on a du mal à croire qu'une telle peinture soit en 1614 encore possible. Mais on a presque envie de dire, on a quand même du mal à croire que ce type de peinture soit déjà possible à cette époque-là. Cette toile, elle dialogue avec les œuvres de Picasso, de Chirico ou de Dali, qui, en redécouvrant ce maître au XIXe siècle, en ont fait finalement leur génie fétiche, leur génie caché. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la ville où il a rayonné, c'est la ville de Tolède, une ville de Tolède qui, en fait, comme lui, va s'isoler peu à peu, et c'est Madrid qui l'emportera, voilà, et en dépit de tout ça, le Gréco est peut-être le dernier grand maître de la Renaissance, probablement le premier grand maître du siècle d'or. Une exposition, donc, pareil, je dirais la même chose que vous, cher Frédéric. Elle n'est pas unique, elle est absolument exceptionnelle.
Ou je disais l'inverse, exceptionnelle, mais pas unique. Mais unique.
À peu près, on est d'accord. Même idée. Allez. Même chose, et je pense qu'on va devoir conclure là-dessus, les couleurs, la force de ces œuvres s'imposent, moi j'en ai presque pleuré, et ce, en dépit de la quantité astronomique de visiteurs qui s'enchaînent dans cette exposition, en dépit du système de réservation en ligne qui a été aussi mis en place au Grand Palais pour cette exposition exceptionnelle.
D'où ça vient d'ailleurs, cette mise en place de l'obligation de réserver désormais?
Alors, c'est une obligation qui, en fait, ce système-là, bien avant même l'avènement d'Internet, il a commencé à être mis en place en Égypte, dans la Vallée des Rois, dans des tombes qu'on devait limiter le nombre de visiteurs, notamment la tombe de Nefertari, qui entre-temps a été complètement fermée au public. Donc c'est les premières velléités, à l'époque ça se faisait par téléphone, de limiter le nombre de visiteurs et de les répartir sur une même journée. Ensuite, évidemment, ça s'est imposé à Rome, où vous savez que pour le Vatican, vous devez faire la même chose, la chapelle Sixtine, les offices, de la même manière, et le Louvre a décidé cette année de l'appliquer sur ses grandes expositions, mais de l'appliquer aussi à terme pour la visite du musée, c'est-à-dire qu'à partir de novembre, donc à partir du mois prochain, même pour visiter le musée, même si vous êtes porteur du Museum Pass, eh bien vous êtes obligé de réserver. Pourquoi ? Parce que ça permet de lisser la fréquentation des visiteurs. et d'une certaine manière aussi de limiter le temps de la visite. C'est assez troublant parce que...
Et puis les queues, en théorie.
Théoriquement les queues, mais en réalité ça ne fonctionne pas tellement, puisque vous faites la queue, même quand vous avez une réservation à 15h30, ouais. Vous arrivez à 15h, vous
pour l'exposition Bacon, vous faites la queue une fois pour rentrer au Beaubourg, une deuxième fois pour rentrer dans l'exposition Bacon, alors que vous avez une invitation sur Internet.
Donc, oui, mais néanmoins, si on était dans un système... En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une appétence extraordinaire des gens pour ces grandes expositions monographiques. Je sens que le patron des Échos veut intervenir. Il y a un enthousiasme délirant. Et en réalité, vous perdez moins de temps à finalement avoir une réservation et à faire deux fois la queue que si vous veniez tous les jours et que vous faisiez la queue tous les jours et que vous abandonniez tous les jours. Donc de facto, c'est peut-être un peu plus démocratique. C'est quand même assez compliqué parce que vous rentrez en même temps que la même salve de personnes de 15h30. Donc il y a vraiment un embouteillage total. Donc moi, j'ai commencé l'exposition.
Il y a aussi des gens, pense à un académicien que je ne citerai pas, qui m'a dit hier, je ne sais pas comment y aller, je ne sais pas comment aller sur Internet.
Voilà, ça c'est l'autre problématique qu'on travaille beaucoup ici dans Softpower, c'est la question de la démocratisation de ces moyens-là. Tout le monde n'a pas les moyens, les compétences, l'envie et ne se sent pas d'aller sur Internet.
Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos et du Parisien. Vous avez vu l'expo du Louvre, une réaction sur ces deux aspects?
Oui, j'ai vu celle du Louvre Léonard. J'ai pas vu encore malheureusement l'écho, mais j'ai lu le Connaissance des Arts qui était consacré à cet immense peintre. Non, ce que je réagissais juste pour une chose, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que ça montre quand même cette envie d'expérience dans le vrai monde. Il y a beaucoup de gens qui réservent, qui vont quand même malgré tout encore faire la queue, malgré les systèmes mis en place. Parce qu'on a envie de voir les œuvres, d'avoir un rapport devant les œuvres avec la lumière, avec la façon dont elles interagissent avec nous. Et ça, c'est fabuleux. Ça ne se passe pas dans les plateformes numériques, ça se passe dans le vrai monde.
Bah, c'est bien. On pourrait ne pas être aussi élogieux de l'exposition, à propos de l'exposition Bacon au Centre Pompidou, qui elle manque un peu d'explication, est trop partielle pour qu'on comprenne tout à fait l'œuvre présentée, l'œuvre donc de Bacon, pourtant œuvre cruciale, torturée, complexe, comme le sont la plupart de ses tableaux. Un peu embrouillée cette exposition pour décrypter le lien entre son œuvre et la littérature. Les lectures de textes ne fonctionnent pas, la littérature ça se lit, mais ça s'écoute pas facilement, surtout dans des sortes de bocaux où on est enfermé, brûlé, bruyant et surpeuplé. La scénographie et la signalétique sont assez moyennes et en plus il faut réserver, on l'a dit, en ligne et quand même faire deux fois la queue. Donc tout ça est un peu compliqué. Malgré tout, on peut conclure sur quelle richesse d'exposition cet automne à Paris.
Je crois qu'on peut effectivement conclure là-dessus et on peut aussi conclure en disant que c'est assez beau parce qu'à la fois il y a de la richesse et à la fois il y a une appétence. Et cette appétence, comme vous le disiez, ne s'épuise pas. Et cette appétence est justifiée parce que les couleurs du Gréco, par exemple, la lumière, c'est impossible d'imaginer la lumière incroyable que produisent ces œuvres dans la réalité. Et vous avez beau avoir quatre personnes qui prennent des selfies devant vous, ça reste absolument renversant.
Ils sont insaisissables en général et en particulier en ligne.
Et alors, comme on est en vacances scolaires jusqu'au 4 novembre, pour ceux qui sont à Paris ou qui viendraient à Paris cette semaine, une recommandation supplémentaire, encore une, Les Fourberies de Scapin, là c'est du théâtre à la Comédie Française. La pièce de Molière est mise en scène par Denis Podalydès et c'est un véritable régal. Coup de bâton à répétition, orgueil et préjugés, paternalisme étroit et belle perfidie de Scapin, un fourbe comme il se doit. La pièce est totalement revisitée pour ceux qui s'y sont ennuyés, comme moi, au collège. C'est l'occasion de la revoir moderniser et enfin de l'aimer. Les avocats, au passage, en prennent pour leur grade. C'est bien fait pour eux. Mise en scène remarquable donc. Celui qui est encore plus remarquable, c'est Benjamin Laverne dans le rôle de Scapin où il est tout simplement exceptionnel. Un petit Denis Podalydès en devenir. Signalons aussi le Géronte, joué par Didier Sandre, pensionnaire de la Comédie Française, magnifique dans ce rôle. Seul le décor est un peu décevant, mais ça ne suffit pas à ce que l'on boude notre plaisir. Les Fourberies de Scapin, c'est juste au 2 février 2020 à la Comédie Française.
Dans les rues de Santiago, la foule s'étend à perte de vue. Des centaines de milliers de personnes défilent et tentent de rallier la Plaza Italia, noire de monde. Mobilisés contre les inégalités sociales, les manifestants appellent désormais à la démission du président Sebastián Piñera, dont les mesures annoncées récemment n'ont pas convaincu.
Le gouvernement n'écoute pas, il fait la sourde oreille, il se fiche de nous. C'est comme si on n'existait pas.
Alors le Chili, ce petit pays d'Amérique latine, l'un des plus longs toutefois par la taille entre Cordillère des Andes et Terre de Feu, et donc en révolution. Ce week-end, plus d'un million de personnes ont défilé dans les rues de Santiago du Chili et des autres grandes villes, comme on l'entendait à l'instant, un extrait d'un reportage de nos confrères de France 24. Des manifestations monstres qui ont entraîné des violences rares, avec plus de 2410 détenus, plus de 535 blessés, dont 210 par arme à feu d'agents de l'État. Déjà 18 morts. Le couvre-feu et l'état d'urgence ont été décrétés, même s'ils devraient être levés cette nuit. Le Chili est donc en proie à une révolution aussi dure qu'inattendue depuis à peu près une grosse semaine. Le président Sebastián Piñera, qui incarne une droite républicaine, anti-Pinochet et entrepreneuriale, semble avoir perdu le contrôle du pays. Monica González est l'une des journalistes d'investigation les plus réputées au Chili, exilée à Paris durant la dictature. Ses enquêtes sur les assassinats de Pinochet ont fait date, sur les droits de l'homme, la corruption et plus récemment sur les abus sexuels du clergé chilien, dont deux cardinaux sont maintenant mis en examen et ont été écartés par le pape François. Bonsoir Monica González.
Bonsoir Thierry.
Vous arrivez du Chili où vous vivez. Comment est-ce que vous analysez la situation à Santiago du Chili et dans la plupart des grandes villes?
C'était une situation inattendue, mais pas tellement, parce que on a eu une histoire d'abus qui ne se portait plus. Les Chiliens n'est pas comme les autres pays de l'Amérique latine. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est une rébellion pacifique. C'est Piñera qui s'est trompé, le président qui a dit « on est en guerre » avec un ennemi très puissant. Mais l'ennemi, c'était le peuple qui était rassemblé dans la rue, qui n'avait pas de drapeau de parti, parce que ça, c'est la crise la plus grave qu'a eu le Chili depuis la récupération de la démocratie.
Depuis la fin de la dictature.
En 1990.
Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres?
La dernière cerise, ça a été l'augmentation des prix des métros. Et c'est comme d'habitude, parce que c'est depuis 2011, les étudiants qui font la rébellion, qui commencent la rébellion. Et c'était qu'ils ont commencé à faire une invasion massive des billets des métros. Mais la réponse des gouvernements, ça a été d'appliquer la loi mise en taule à des jeunes. Et ça, c'est la contradiction, parce que pendant que les étudiants sont mis en taule pour un billet de métro, qui coûte vraiment très peu, pendant les plus dernières années, et surtout la décennie des années dernières, on a une histoire de fraude très, très, très grosse des entrepreneurs les plus riches de Chili, et aucun d'eux est allé en taule.
Qui est-ce qui manifeste dans les rues?
Des jeunes.
À l'origine, les étudiants, les jeunes.
À l'origine, des jeunes.
Et quand il y a un million sur un pays de quoi? 6 millions d'habitants?
C'est 1,5 million seulement à Santiago. Hein. Ouais. Si on parle de tout le Chili, c'est pour ça qu'on dit que c'est la manifestation, la révolte la plus pacifique et la plus grande qu'a eu l'histoire de Chili. Et c'est aussi les retraités qui ont des pensions misérables. Parce que c'est qu'on est en train de dire qu'on ne peut plus avoir... Ils ont privatisé l'eau. C'est des grosses entreprises, surtout au de Barcelone, des groupes internationaux, qui sont les pouvoirs parce qu'ils ont pris la propriété de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie, de tout.
Est-ce que...
Et surtout de la... S'il te plaît, surtout de la sécurité sociale. La sécurité sociale est privée. Et les retraites. Les retraités qui marchent dans la rue aujourd'hui, et quand ils voient les jeunes, ce qu'ils disent, je ne vais pas avoir la vie qui a mon père, ma mère. Ils sont supportés, ils se sont fait avoir. On n'a pas une vraie démocratie.
En même temps, les militaires sont très violents au Chili, beaucoup plus que dans d'autres pays. Dès qu'il y a des manifestations, on a l'impression que les jeunes et les retraités, ceux qui manifestent, n'ont pas peur des militaires. C'est assez nouveau, non?
Assez nouveau. À moi, ça me fait frémir parce que je pense que c'est surtout ce que je disais avant. Les jeunes pensent qu'on n'a pas récupéré vraiment la démocratie en 1990, qu'on s'est fait avoir.
On n'a pas changé la Constitution.
Qu'on n'a pas changé la Constitution, qu'on a tout privatisé en dictature et en démocratie. Les congrès, ils ne vont rien pour les jeunes. Il y a 52 abstentions. 52, ça veut dire que Piñera était élu avec les 27% des voix. C'est une crise de représentation politique incroyable. Alors, c'est pour ça que les gens qui marchent dans la rue, et ils suivent pas une mot d'ordre. Il n'y a pas un seul parti.
Il n'y a pas de leader non plus.
Qui peut dire, ça, c'est nous qui liderons cette révolte.
Quelles sont les revendications aujourd'hui? Le président a répondu à un certain nombre de revendications en proposant des changements importants en ce qui concerne les retraites, en ce qui concerne le pouvoir d'achat, etc. Mais quelles sont profondément les revendications?
Les changements de système radical. On ne veut plus d'inégalité dans la justice. Par exemple, tout ce que je viens de dire, les gendres de Pinochet qui s'est approprié de la principale mine de lithium, je pense qu'on dit comme ça.
Lithium, oui.
Et ça, c'est une recherche incroyable. Et il l'a fait en démocratie. Et il a payé les campagnes politiques de tous les secteurs, de la gauche à la droite. Et c'est ça que les gens, ils disent, assez, on a assez. On veut changer les lois. On veut que les gens qui font l'évasion des impôts, comme le président Piñera, par exemple, qui a fait une évasion incroyable avec tous les hommes les plus riches, qui ont inventé une formule d'acheter des entreprises qui étaient dans la chute, qu'on appelait des entreprises zombies, et pour faire une évasion millionnaire des impôts. Les gens, ils disent, cette inégalité, on ne peut plus. L'eau, il doit revenir à l'État. L'électricité, on avait annoncé à 11%, 11% de hausse des prix.
11%, oui.
Pendant que les groupes qui ont acheté cette énergie, ils l'ont fait à un prix de rien du tout.
Dérisoire. Vous êtes l'une des journalistes d'investigation les plus réputées du Chili. Vous êtes en train de terminer un livre sur la corruption, ouais, au Chili. Est-ce que la corruption est au cœur de ce ouais, problème? Est-ce qu'elle est endémique au Chili?
Ouais, comme partout dans l'Amérique.
Mais en quoi elle est singulière?
Et dans votre pays aussi.
Et alors justement, nous
on n'a pas les monopoles, hein. Je dois dire, c'est pas pour sauver la face.
Mais nous, on n'a pas un quart de la population dans la rue, encore.
Encore. Encore.
Non mais revenons au Chili.
Et c'est pour ça que je dis encore. Parce que ça, c'est un problème global. La corruption, maintenant, on n'a pas la vraie concurrence dans les marchés. Il y a une accélération dans les monopoles de la propriété des entreprises, et l'évasion des impôts, les paradis fiscaux. On a un problème grave.
Alors,
grave.
Pour reparler du Chili, qu'est-ce qui s'est passé depuis 90 et la fin de la dictature, mais aussi durant les années de Michel Bachelet? Le Chili était devenu, en tout cas pour nous, vu d'Europe, une sorte de modèle, hein, contre l'Argentine et Kirchner, à la fois nationaliste et péroniste, contre le Brésil de Bolsonaro aujourd'hui, ou la violence en Colombie ou au Mexique, sans parler du Venezuela post-chaviste qui s'est effondré. Comment ce pays modèle, et comment en est-on passé à un pays en crise si violente et si rapidement?
Précisément pour ça, parce qu'on a voulu vivre après avoir suivi la violence, la mort, la torture, pendant 17 ans de dictature. On voulait laisser tous ces temps derrière. Mais la classe politique, je pense, qui s'est fait payer par les groupes des entreprises, surtout les groupes internationaux, et ils ont fait des lois qui ont vraiment défavoriser les gens. Et c'est la corruption qui n'est pas épisodique. C'est systématique. C'est comme partout. Et je pense que quand on parle aujourd'hui, pour donner seulement une chiffre, les fraudes d'une des plus grosses entreprises, la Polar, ils doivent payer 76 millions de dollars à seulement 3 administratifs des fonds de retraite. 76 millions de dollars. Les plus gros épisodes, scandales de corruption qui a eu Amérique latine cette année, l'année dernière, c'est Odebrecht, Petrobras au Brésil.
Bien sûr.
Tous les Pérou, avec 4 présidents qui sont en tôle, suicidés,
arrêté,
obligé de renoncer, c'est 36 dollars, millions de dollars.
Donc ça veut dire que la fraude est encore plus importante pour le petit Chili.
C'est pour ça que je dis que les journalistes aussi, on doit faire, nous tous, on doit travailler mieux. Le pouvoir n'est pas où on croit qu'il est.
Quels sont les dangers qui guettent le pays? Retour à la dictature via un régime militaire sur le modèle vénézuélien, montée en puissance des narcotrafiquants, très important actuellement dans ce pays, sur modèle mexicain et colombien.
Vous dites un mot qui me fait frémir, parce qu'avec la violence, que c'est pas la foule, c'est pas la civilité qui l'a fait, d'incendier des banques, de supermarchés, l'État donne des pas en arrière dans les bidonvilles. Et il faut savoir, chaque fois que l'État met un pas en arrière, il laisse un vide. Et c'est vide qui les prend, les narcotrafiquants.
Dans une zone où vous avez le deuxième et troisième producteur de coke au monde,
à côté,
hein, c'est-à-dire le Pérou et la Bolivie, vous avez l'Argentine, un des plus gros consommateurs,
oui.
Et vous êtes entre tout ça.
Et nous, un pays où on lave l'argent...
Vous blanchissez l'argent sale.
On blanchisse
l'argent de la drogue.
Qui vient de là. Et d'autres. Alors c'est dur, parce que nous, on est dans un problème assez gros. On veut demander la renonce des Piñera, mais qui va prendre les pouvoirs?
Oui, exactement. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant?
Il peut se passer plusieurs choses, mais je ne pense pas à un coup d'État, parce qu'il faut savoir aussi que les groupes économiques internationaux ne veulent pas de coup d'État. Les coups d'État, ça ne les intéresse pas, sinon Venezuela il aurait été envahi par les États-Unis. Depuis longtemps, comme d'habitude. Alors, c'est pour ça que les journalistes, il faut qu'on regarde bien. Ce qu'on a dans ces moments, c'est un pouvoir qui va essayer de faire des changements, mais ça va être des pièces de théâtre. Faire des changements pour que rien ne change.
Est-ce qu'il faut annuler la COP25 sur le changement climatique qui aura lieu à Santiago début décembre? En France, le député de gauche radicale Sergio Coronado du parti de Jean-Luc Mélenchon ou encore Yannick Jadot réclament un report de cette conférence.
Au Chili aussi, il y a des groupes, même des groupes qui soutiennent le gouvernement, qui disent que c'est un gaspillage de l'argent qui pouvait se utiliser dans d'une autre façon, autrement. Mmh. Je ne sais pas, ça, parce qu'il faut savoir aussi que... Ça reste très peu de jours pour faire une conférence qui est très importante.
Prévue début décembre. Ouais.
Très importante. Pour l'avenir, pour le devenir du monde, c'est une conférence que je pense qu'on pourrait utiliser la situation qu'on vit au Chili pour exiger des changements pour des vrais.
Monica González, journaliste, star du journalisme chilien, était avec nous ce soir. Et puis bon anniversaire, madame, puisque je crois que vous venez d'avoir 70 ans ce week-end. Ouais. Et vous êtes venue les fêter à Paris. Et bravo pour votre français. À suivre dans Soft Power, Gaspard Koenig, qui publie La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence. Et juste après, on parlera de la presse française en guerre contre Google et ainsi que des droits des consommateurs. Mais juste avant, et pour clore cette longue séquence d'actualité ce soir, voici Jésus-Christ en mode rap. C'est signé Kanye West et c'est un événement. L'américain Kanye West, l'un des plus célèbres rappeurs au monde et l'un des plus intéressants aussi d'ailleurs, souvenons-nous de son album Graduation, qui est un vrai chef-d'œuvre, bascule donc vers un nouveau genre. Avec son nouvel album sorti ce vendredi à midi, après avoir été longtemps différé, Jesus is King, le voici qui se lance dans la musique chrétienne. Alors c'est pas la première fois que le rap évolue vers le Christian rap, mais c'est peut-être le plus grand artiste récent à le faire. trois explications à ce phénomène, qui sera soit un épiphénomène d'ailleurs, ou un phénomène plus majeur, l'histoire le dira. D'abord, une rupture personnelle. Dans la vie privée de Kanye West, le rappeur a été victime d'un gros accident de voiture. Il est tombé ensuite dans une profonde dépression. Il a été hospitalisé en psychiatrie, sans oublier une grave crise bipolaire. Bref, il a perdu le contrôle sur sa vie. Et West nous dit l'avoir retrouvé grâce à sa conversion. Merci à Jésus. Cet album d'ailleurs ressemble au protestantisme américain, très loin du catholicisme, du bon vieux pape François. Il est évangélique, lyrique, mégalomane. C'est celui des méga-churches de Colorado Springs et de Little Rock, des pasteurs officiant avec micro-cravate, leur image reproduite sur des écrans géants pendant l'office, les chœurs avec des centaines de participants, les pasteurs déchaînés devant l'autel. Rupture géographique ensuite pour Kanye West, qui vient du rap, comment dire, mainstream, hein, qui rejoint une niche, celle de la musique chrétienne. Le rap, la pop, c'est Los Angeles, c'est le top 50 au Billboard, alors que la country et la musique chrétienne est basée surtout à Nashville dans le Tennessee, et c'est une musique de charts, hein, spécialisée, avec environ 7% des ventes de musique aux US. Elle a ses prix aux Grammys, son baromètre à Nielsen Christian Soundscan et ses rayons dans les supermarchés. Tout cela n'a pas échappé à Kanye West, qui est à la fois un rappeur de génie, mais aussi un bon promoteur de sa musique très marketée. A-t-il compris que le Christian rap était un marché à prendre? C'est certain. En cela, ce grand défenseur de Donald Trump, qui a eu des propos assez ignobles sur l'esclavage et une polémique absurde avec son confrère Drake, est aussi un sacré populiste. Retiens les selfies, range les Grammys, réunis ta famille, tenez-vous la main et priez, chante Kanye West sur l'une de ses chansons sorties mondialement ce vendredi. Alors depuis longtemps, et on le voit peu en France car ce sont des hits qui ne traversent presque jamais l'Atlantique, le Christian rock est une industrie majeure aux États-Unis. C'est donc à Nashville que ça se passe, dans le quartier baptisé justement Music Row, avec une industrie qui produit du Christian rock, du God rock, du Jésus rock, du Gospel rock, bref des niches et des sous-niches qui existent. On y remercie Jésus au dos des CD et sur les albums qui y sont produits, il n'y a ni gros mots, ni filles à la poitrine avantageuse. C'est d'ailleurs ce que nous dit Kanye West, qui était un obsessionnel sexuel, sex addict selon ses mots, et qui, en retrouvant la foi, ou tout simplement en la découvrant, a retrouvé aussi la passion pour sa femme, la célèbre Kim Kardashian, d'ailleurs désormais Kim Kardashian West. Alors on le voit, entre considération personnelle et marketing, Kanye West fait un choix majeur, et comme la Christian music se cherche un destin plus populaire dans la lignée du film La Passion du Christ de Mel Gibson, ou la bande-son du Monde de Narnia de Disney, ou même de Matrix, on peut penser que Kanye West fait un choix commercial. Il pense que son album sera porté par un marché dynamique aux États-Unis, celui des évangéliques, mais il voit plus grand et plus loin encore. Il pense au Brésil et au Mexique, où les évangéliques ont partout le vent en poupe, sans compter l'Afrique, où un rap chrétien peut très bien conquérir les foules. Kanye West, en embrassant le rap chrétien, bouscule donc les codes et fait aussi une belle opération marketing. Ce faisant, et peut-être plus simplement, il renoue avec les origines du blues, du jazz, mais aussi du rock et de la pop, et jusqu'aux maisons Stax, Atlantic ou Motown, partout une même origine, car derrière son album, à savoir la musique qu'il fait aujourd'hui, il y a tout simplement les esclaves qui chantaient et chantent encore aujourd'hui ces noirs dans les églises protestantes du sud des États-Unis, aux origines de la musique américaine du XXe siècle, le Sunday Service Choir, à savoir le chœur des paroissiens lors de la messe du dimanche matin. Et c'est justement en invitant ces choristes-là sur son album et en dédiant sa nouvelle musique à Jésus que Kanye West boucle la boucle. Let your light reflect on me. I promise I'm not hiding anything. It's water. Like, whoa.
Jesus, flow through us. Jesus, heal the bruises. Jesus, clean the music. Jesus, please use us. Jesus, please help. Jesus, please heal. Jesus, please forgive. Jesus, please reveal. Jesus, give us strength. Jesus, make us well. Jesus, help us live. Jesus, give us wealth. Jesus is our safe. Jesus is our rock. Jesus, give us grace. Jesus, keep us safe.
Clean us like the rain in spring. Take the chlorine out of conversation. Let your light reflect on me. I promise I'm not hiding anything. It's water. Ooh, we are water.
Kanye West sur France Culture, 18h52.
Bonsoir Gaspard Koenig.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, on vous connaît dans cette émission puisque vous êtes souvent intervenu, même à titre de chroniqueur, vous avez débattu. Nous vous recevons aujourd'hui avec joie et avec un peu de retard car vous publiez en cette rentrée La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle. La question de l'intelligence artificielle, avec du grand changement technologique que nous vivons, vous la connaissez bien, vous travaillez dessus depuis plusieurs années, vous êtes aussi le fondateur du think tank Génération Libre. Le projet de ce livre, d'où vient vous dites avoir eu envie de l'écrire en réponse, ou en tout cas pour poursuivre la réflexion ou essayer de s'opposer à celle de Yuval Harari, penseur, écrivain israélien. Qu'est-ce que cet homme dit d'intelligence artificielle que le philosophe que vous êtes voulait penser ou continuer à penser ?
Absolument. C'est la question qu'il pose à la fin de son livre Homo Deus, qui reste sur cette question, sur cette interrogation, et qui dit au fond, maintenant que les neurosciences ont prouvé que nous n'avions plus de libre arbitre, et maintenant que les technologies d'intelligence artificielle permettent quelque part de mettre en pratique cette conclusion académique et d'orienter les comportements de manière extrêmement fine, de connaître les gens mieux qu'eux-mêmes, de leur fournir des informations auxquelles ils n'auraient jamais eu accès avec leur petit cerveau, nous allons avoir une tendance tout à fait naturelle à déléguer notre capacité de choix à la machine. Et à force de faire cela, nous allons perdre ce qui était quand même le socle de nos sociétés, globalement nos sociétés libérales, à savoir l'autonomie du jugement. Et c'est toute une partie de notre univers qui s'en trouve chamboulée, parce que reste-t-il du droit de vote ? Que reste-t-il de l'homo economicus ? Que reste-t-il de la responsabilité pénale quand c'est la machine qui a pris la décision et que nous lui avons bien volontiers délégué ? Que reste-t-il de nous-mêmes aussi ? Que reste-t-il de notre singularité ? Que reste-t-il de nos neurones ? Alors bien sûr, c'est pousser un peu la logique de l'intelligence artificielle à l'extrême, puisqu'elle n'a pas encore envahi entièrement tous les domaines de notre existence. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est la tendance, et surtout ce qui est intéressant, c'est de dégager, un peu comme Tocqueville était dégagé les principes de la démocratie qui était l'égalité, eh bien le principe de l'intelligence artificielle qui est effectivement au fond l'hétéronomie ou la fin du jugement autonome ou la fin du libre-arbitre. Et évidemment, pour quelqu'un de libéral comme moi, qui croit à l'individu, et plutôt d'ailleurs technophile de nature, alors là, c'est tout d'un coup un grand conflit intérieur, parce que certes, ces nouvelles technologies, c'est formidable, c'est le marché, c'est l'innovation, c'est la mondialisation. Et en même temps, est-ce qu'elles ne sont pas en train de saper le fondement même au fond de 3 siècles de libéralisme? Et c'est vrai que ce livre est écrit à la première personne parce que j'ai beaucoup voyagé pour le faire.
Vous êtes un peu Adam Smith. Vous allez voir, autant vous dialoguer avec les auteurs que vous lisez, les auteurs qui écrivent aujourd'hui, qu'avec les acteurs de cette fameuse révolution.
En tout cas, c'est ma méthode depuis 4 ou 5 ans, c'est d'aller beaucoup sur le terrain et de parler non pas seulement aux intellectuels, mais aux gens qui font, aux investisseurs, aux entrepreneurs, aux chercheurs. Et si vous voulez, ça, c'est très utile parce que vous pouvez par exemple avoir de divaguer en chambre en lisant Bostrom sur la super intelligence qui va transformer l'univers en paquet de trombones. Mais quand vous êtes sur le terrain et que vous parlez à des computer scientists, à des informaticiens, en quelques heures, vous avez compris que c'était pas du tout le sujet et que on était très très loin de ce genre de divagation, que ça vous remet les pieds sur terre et quelque part ça vous enlève un certain nombre d'angoisses.
Les angoisses, on peut les citer, les angoisses, disons, qui sont communément partagées par le grand public sur la question de l'intelligence artificielle, la fin du travail. Ça, c'est des questions que vous évacuez relativement rapidement, alors que certains spécialistes, finalement, de l'intelligence artificielle, on a chroniqué ici le livre du chinois Kai Fu Lee, que vous connaissez, qui lui, par contre, prédit la fin du travail, et il voit d'ailleurs une occasion magnifique de se recentrer sur l'émotion et notre être oui. profond.
Mais alors ça, j'y crois pas du tout à cette idée que voilà, ce qui reste à l'homme, c'est l'empathie, la créativité, l'émotion, et que les machines feront le travail ennuyeux. Parce que au fond, chacun voit la disparition du travail de l'autre. C'est-à-dire que vous demandez à Kai-Fu Lee, mais vous, en tant qu'investisseur, est-ce que vous allez être remplacé par une machine ? Ah ben non, vous voyez, c'est trop compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, les gens ont du mal à envisager la complexité du métier d'à côté. Et cette complexité, elle est liée à quelque chose de très fondamental, et que, alors là, pour le coup, m'a fait réaliser Yann LeCun, ce bon chercheur en intelligence artificielle, prix Turing, et qui d'ailleurs le redit dans un livre qu'il a publié la semaine dernière, qui est que l'intelligence artificielle n'a structurellement, pas par hasard, pas parce que les techniques sont pas assez développées, n'a structurellement pas de sens commun. C'est-à-dire qu'elle est capable de vous fournir beaucoup de résultats extrêmement précis, mais qu'il va y avoir 2% de résultats qui sont complètement aberrants et qui sont des erreurs que l'homme n'aurait jamais pu faire, parce qu'elle n'a pas de représentation complète du monde. Et ça, c'est structurel parce que elle n'a pas de renseignements complets sur l'univers dans lequel elle se trouve. Elle fonctionne de manière sectorisée. Et elle n'a pas non plus de valeur. Et ça, c'est lié au fait qu'elle n'a pas de corps. La manière dont on peut décrire la non-fin du travail, c'est que les métiers qui sont remplacés sont les métiers qui ne font pas appel au sens commun. Il y en a assez peu. Même quand vous êtes serveur dans un restaurant, vous avez besoin d'énormément de sens commun pour juger de l'attitude du client. Donc, c'est pour cela que j'étais assez détendu sur
ces questions-là. Une des notions que vous essayez de creuser un petit peu dans ce livre, c'est la notion de nudge. Cette question de Libra Brit, au fond, elle s'incarne dans cette question du nudge. De quoi s'agit-il ?
Alors, le nudge, c'est cette expression qui a été largement popularisée par l'économie comportementale et qui veut dire en anglais pousser du coude, c'est-à-dire donner une incitation, orienter dans un certain sens, mettre dans un sillon de manière subtile, de manière non autoritaire, mais de manière quand même extrêmement efficace. Et il est vrai que il y a aujourd'hui un espèce de consensus académique aux États-Unis, dans la psychologie, dans les neurosciences, dans l'économie comportementale, qui consiste à dire que nous sommes, et à juste titre, et sur la base d'expérimentations très scientifiques, que nous sommes pleins de biais cognitifs, que donc nous ne prenons pas les décisions les plus rationnelles pour nous-mêmes, et que face à cela, eh bien, à la fois la politique publique peut nous inciter à faire les meilleurs choix, et l'industrie de l'IA, et l'industrialisation des méthodes d'intelligence artificielle s'engouffre complètement dans ce chemin. Là, on est entré tellement finement dans la compréhension de ce qu'est un individu, de ce dont il a besoin et de ce dont il a réellement envie, au-delà même de ses désirs explicites, c'est-à-dire de son comportement au-delà de ce qu'il formule, que ça pose un problème plus général et plus colossal, en fait, qui est la place de l'individu dans le groupe.
Évidemment, alors ça, c'est dans la dernière partie de votre livre. On revient à Yuval Harari, vous dialoguez avec Spinoza, vous interrogez les questions de déterminisme. Yuval Harari vous dit, par exemple, moi, la neuroscience et l'IA auraient peut-être pu me permettre de me rendre compte que j'étais homosexuel beaucoup plus jeune. J'aurais gagné du temps dans ma vie, je me serais, d'une certaine manière, libéré de tout un tas d'angoisses. À un moment donné, vous revenez au fondement même philosophique de cette question du libre arbitre, en essayant de distinguer la question du déterminisme de la question de la délibération. Et vous dites, et avec vous plusieurs scientifiques, vous dites que finalement, le fait qu'on délibère, le fait qu'on ait un libre arbitre n'est pas si important du point de vue du résultat. Le temps que nous prenons pour délibérer change, modifie nos circuits neuronaux, et c'est ce temps de délibération plus que les choix que nous faisons qui constitue notre personnalité. Et donc, finalement, en s'en affranchissant totalement, ou en les déléguant à l'IA, nous nous vidons véritablement de ce qui fait de nous un individu.
C'est très bien dit, c'est exactement ça. C'est vrai que j'ai essayé de mêler, du coup, dans ce livre, de la métaphysique, du journalisme et de la tech, et que, sur le plan du libre-arbitre, je suis d'accord que le libre-arbitre, comme une sorte de fiat qui interromprait le cours de la nature, n'est plus tellement justifié, et que les neurosciences retracent, cartographient nos circuits de décision, que nous prenons des décisions avant même d'en être conscients, qu'il faut accepter les résultats de la science de ce point de vue-là. En revanche, ce qui reste et qui constitue la responsabilité, c'est moins le libre-arbitre que l'exercice intérieur de la délibération, qui effectivement change la structure des circuits neuronaux et nous permet de constituer une personnalité complexe. Et donc, je vais reprendre l'exemple un peu provocateur d'Harari qui dit « j'aurais gagné du temps si j'avais appris tout de suite que j'étais homosexuel et je me serais évité beaucoup de souffrance ».
Et l'IA aurait peut-être pu le voir dans la manière dont je regarde une photo d'homme.
Exactement. Et c'est pas étonnant qu'il dise « ça aurait évité de la souffrance », parce que lui, au fond, son but ultime, en tant que bouddhiste et que méditant, c'est de diminuer le niveau de souffrance dans le monde. Mais moi, mon point, c'est de dire c'est précisément cette souffrance dans la recherche amoureuse qui nous constitue en tant que personnalité, que singularité. Et donc, il faut garder cette possibilité de nous définir nous-mêmes, non pas pour le résultat, peut-être effectivement sous-optimal, mais pour le processus.
Et alors, du coup, on en vient à vos conclusions de philosophe et à la fois de libéral. Vous l'avez dit, vous êtes technophile. Et finalement, c'est un jeune homme qui s'appelle Harry Clore, qui, d'une certaine manière, vous fournit un outil qui vous plaît. C'est ce que vous appelez la prime directive. De quoi parle-t-on ? Prime directive, comment est-ce qu'on le dit à l'américaine ?
Personnage de la Silicon Valley, qui est partout, qui fait du cinéma, qui a deux PhD en biologie et en chimie. Et dit, au fond, ce qui est important, c'est de permettre aux gens d'utiliser ces systèmes d'IA, mais selon leurs propres paramètres, selon les critères qu'ils ont eux-mêmes choisis. Alors lui, il appelait ça la prime directive. Et la question qui se pose ensuite, c'est comment est-ce que on en vient à donner à l'individu une forme de maîtrise sur un système d'IA en disant, moi, je veux bien être orienté sur tel choix, mais pas sur tel autre et dans telle condition. Et donc, inscrire ces paramètres que l'IA devra respecter. Bah, c'est évidemment pas en modifiant les algorithmes tout là-haut dans le cloud. C'est davantage en contrôlant le flux de données sortant, puisque c'est ça qui permet à l'IA de nous manipuler, entre guillemets, c'est les données que nous lui fournissons. Et c'est donc de constituer, d'abord, d'instaurer un droit de propriété sur les données personnelles qui fait que ces données, non seulement nous les maîtrisons, mais elles nous appartiennent et nous avons dessus tout ce que confère le droit de propriété, fructus, abusus, usus.
Ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas, puisque les données que nous donnons finalement à ces grandes entreprises qu'on appelle les GAFA, mais ça va bien au-delà, appartiennent à ces entreprises aujourd'hui.
Oui, et c'est d'ailleurs le thème de la propriété des données est devenu un thème de la campagne des primaires démocrates américaines avec un jeune candidat qui estime qu'il faut donner aux individus des ownership rights sur leur data. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement contemporain des deux côtés de l'Atlantique. Évidemment, les Chinois, ça les concerne moins. Et donc, le fait d'avoir ce droit de propriété permettrait effectivement d'abord, comme vous y faisiez allusion, de changer un peu les rapports de force économiques, puisque nous pourrions retirer un pourcentage du moins de la valeur que nous fournissons avec la matière première que sont nos données, et donc remettre la chaîne de valeur économique sur ses pieds. Mais au-delà de la question économique, moi c'est une question plus fondamentale de libre arbitre, c'est-à-dire que nous pourrions plus ou moins fermer notre portefeuille de données personnelles en fonction des fins qui sont poursuivies par les différentes plateformes, en fonction de nos propres désirs, en fonction de nos préférences explicites, y compris si elles sont sous-optimales pour le groupe, et de sorte que nous reprendrions le contrôle en fixant des paramètres en amont.
Vous évacuez la question économique, mais en réalité, nous sommes dans un monde où, pour certains, aujourd'hui, et déjà c'est le cas, l'IA et la question de la tech ont des véritables conséquences économiques à l'échelle du monde. Devenir propriétaire de ces données, c'est aussi, d'une certaine manière, être esclave de la valeur qu'elles produisent.
Ça dépend. Aujourd'hui, d'abord, on est esclave tout court, puisque c'est un peu comme la paysannerie qui s'est peu à peu émancipée au cours du Moyen-Âge. Quand on relit Georges Duby, en fait, ça nous dresse le paysage actuel.
C'est-à-dire grand historien médiéviste.
Qui explique l'émergence du droit de propriété du 12e au 18e siècle, qui fait que les paysans ont repris le pouvoir en faisant que leurs terres deviennent aliénables, en pouvant la transmettre en héritage, en pouvant vendre librement les productions sur les marchés, etc. Et aujourd'hui, c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire, nous sommes dans une forme de féodalisme numérique, nous donnons tout gratuitement en échange de services gratuits et monopolistiques, et reprendre la propriété sur les data, c'est permettre de les valoriser ou non, c'est-à-dire c'est permettre soit, si on décide d'être parfaitement transparent et qu'on abandonne tout à Facebook, au moins d'en récupérer une partie, et c'est tout à fait normal, ça donnerait sens, ça ne changerait pas la situation actuelle, mais au moins ça permettrait de rémunérer ceux qui participent et qui en fait font l'effort et produisent le travail sur lequel cette industrie s'appuie. Mais ça permettrait aussi, surtout, je trouve, de fermer un certain nombre. Parce que le droit de propriété vous donne la possibilité d'être dans le marché ou de ne pas être dans le marché. Donc vous pourriez dire, moi je souhaite accéder à Facebook, mais je l'utilise comme service, mais je ne veux absolument pas que mes données soient utilisées pour n'importe quelle fin publicitaire, je prends un exemple extrême, et à ce moment-là, je paye le prix de ce service, même si c'est une poussière de centimes. Et ainsi, se créerait toute une économie du micro-paiement, comme dit Jaron Lanier, qui est un des penseurs qui m'a le plus inspiré sur ce sujet en particulier, qui, encore une fois, permettrait de créer un circuit économique qui nous permet d'utiliser l'IA, de valoriser l'IA, d'avoir des industries d'IA, et il nous en faut en Europe, mais qui, en même temps, donnerait beaucoup plus de maîtrise à l'individu et permettrait à l'individu de faire ses propres arbitrages entre confort et vie privée sans demander au régulateur de le faire à sa place.
Merci beaucoup Gaspard Koenig. Je rappelle que donc ce livre s'intitule « La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Soft Power, 19h passées de 5 minutes. Dans un instant, la suite de l'émission avec, vers 19h15, Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos, le Parisien, pour évoquer la bataille titanesque entre, et d'ailleurs à travers l'Atlantique, entre les médias français et Google. Et tout de suite, à 19h passées de 6 minutes, on parle de l'actualité des droits des consommateurs. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Rebonsoir Maxime Chipoy.
Bonsoir.
Vous étiez ancien l'un des porte-parole parmi d'autres de l'UFC Que Choisir et aujourd'hui vous êtes arrivé à la tête, vous êtes directeur de MoneyVox.fr, c'est un site d'information sur le budget des Français, le pouvoir d'achat on pourrait dire.
Tout à fait.
D'une certaine manière et vous vous intéressez aux questions de consommation avec une actualité assez riche et c'est pour ça qu'on vous a sollicité pour ce soir. D'abord, il y a eu une grève récemment à la SNCF qui n'a échappé à personne. Et cette grève s'est traduite par un certain nombre de problèmes et de remboursements. Et la question des remboursements après les grèves est particulièrement épineuse.
En effet, donc il y a eu la semaine dernière une grève qui a duré quelques jours et qui continue encore à durer dans certaines parties de la France. Et on a eu une petite nouveauté cette année puisque Guillaume Pépi, le président de la SNCF pour encore quelques mois, a décidé de créer un fonds d'1 million d'euros pour prendre en charge les frais annexes que les clients, les usagers ont eu à subir suite à ces grèves. Et ça, c'est assez nouveau, puisque avec ce fonds, les frais d'avion de substitution, des repas ou d'hébergement vont être pris en charge. Et ça, à ma connaissance, c'est la première fois que ça se fait à la SNCF.
Pourquoi est-ce que ce fonds ne devient pas permanent, et pourrait d'ailleurs servir y compris les futurs concurrents de la SNCF?
Oui, en effet, c'est la question qu'on peut se poser. Un fonds comme ça serait très utile. Évidemment, tout le monde sait que la SNCF n'en est pas à sa première grève, même si parfois les choses se calment un peu. Mais on est dans un contexte qui est un peu particulier, puisque d'ici quelques temps, on va avoir une ouverture du marché du rail en France à la concurrence. Ça va commencer par les lignes régionales et puis fin 2020, la concurrence va pouvoir prendre sa place au niveau national.
D'où le lancement des Ouigo, par exemple, qui vise à préparer tout ça.
Exactement.
On peut plus avoir de bagages avec soi, on doit faire la queue, arriver en avance. Bref, il y a plus de sandwich ni de café dans les trains, voilà.
Voilà, effectivement.
Le futur s'annonce radieux.
On se rapproche des vols low cost, en effet. Et on sait que souvent.
C'est le cas en Italie, en Angleterre, etc.
Ouais. Ouais, tout à fait. Et on sait que souvent, cette ouverture à la concurrence peut créer des petits problèmes. On ne sait pas encore comment vont se passer les interconnexions entre différentes compagnies et la gestion des remboursements quand un client ne pourra pas prendre son deuxième train à cause du premier train d'une autre compagnie. Et la mise en place d'un tel fonds serait assez utile pour régler le gros des problèmes des consommateurs français dans le secteur du rail.
Il y a aussi de nouvelles cartes qui sont apparues à la SNCF, mais qui apparaissent comme étant plus modernes, mais sont en fait moins intéressantes, Maxime.
Effectivement, la SNCF a...
Carte avantage.
Exactement. Exactement. La SNCF a été assez critiquée au début de l'été par le lancement de ces nouvelles cartes Avantage et Liberté qui remplacent les anciennes cartes Fréquence, Week-end, Enfant Plus, etc. Alors facialement, ces cartes sont plus intéressantes puisqu'elles sont un peu moins chères, en tout cas au moment où on les paye, que les cartes précédentes, que la dernière génération. Cependant, les associations de consommateurs, et notamment la FNOT, la Fédération Nationale des Usagers des Transports, ont fait leur compte et se sont rendus compte qu'en réalité, les réductions sont moins intéressantes que par le passé et qu'en plus, la souplesse est moins forte puisque dès que vous voulez changer un billet, il faut payer, alors que précédemment, c'était plus souvent gratuit.
Alors, il n'y a pas qu'à la SNCF que les choses sont difficiles. Il y a aussi un certain nombre de compagnies, Aigle Azur, XL Airways, Thomas Cook, qui sont pour certaines en faillite totale ou partielle. Et là, que se passe-t-il en cas de faillite pour les retards, les annulations et pour ceux qui ont déjà leur billet d'avion?
Alors, et effectivement, aussi, la période est assez riche là-dessus puisque les faillites se multiplient. Alors, il y a deux choses à avoir en tête. Il y a la faillite d'un tour opérateur et la faillite d'une compagnie aérienne. Et là, c'est pas géré de la même manière. Puisque pour un tour opérateur, comme Thomas Cook, qui est l'historique du secteur, vous avez une protection légale, un système d'assurance en fait du secteur qui vous permet d'être remboursé à partir du moment où vous avez pris un forfait, c'est-à-dire au moins un vol et un hébergement. Donc dans ce cas-là, pas trop d'inquiétude, les consommateurs vont pouvoir être remboursés facilement. En revanche, si vous avez une faillite de compagnie aérienne, et il y en a eu plusieurs ces dernières années, puisque puisque pas moins de 38 compagnies aériennes ont fait faillite depuis 2 ans. Donc c'est LCI qui a fait le compte, parmi lesquelles Air Berlin, XL ou Aigle Azur, pour parler des françaises. Et bien, si vous avez pris votre billet seulement sec auprès de la compagnie aérienne, vous n'avez que vos yeux pour pleurer, puisque la compagnie ayant fait faillite, vous allez passer parmi les derniers, après l'État, après les principaux créanciers.
Les salariés,
évidemment. Et donc, il y a peu de chances que vous retrouviez quelque chose de votre billet. Et là, on peut encore une fois se reposer la question d'un fonds. Pourquoi on a un fonds sur les tours opérateurs et pourquoi pas sur les compagnies aériennes, alors qu'on voit bien que c'est un secteur qui génère beaucoup de faillites de petites compagnies liées notamment au secteur du low cost.
Il y a aussi des sociétés, je pense à Air Indemnité, parmi d'autres, leader français pour les services d'indemnisation. Alors là, c'est pour les compagnies qui existent encore. Lorsque vous avez un vol qui est annulé ou un très long retard, vous passez par ce type de société qui propose aux voyageurs victimes d'annulation de vol ou de retard une méthode plus rapide pour être indemnisé, avec bien sûr, elles prennent un pourcentage sur vos remboursements.
Oui, alors effectivement, il y a des droits que peuvent utiliser les consommateurs européens, puisqu'ils ont droit à des forfaits d'indemnisation selon le retard, l'annulation, etc. On peut pas trop rentrer dans le détail ce soir. Ces droits sont souvent difficiles à utiliser. Vous avez des compagnies comme Ryanair qui font tout pour ne pas vous rembourser, et vous avez ce genre de sites comme effectivement Air Indemnité ou le système indemnitaire de Que Choisir qui prennent ces formalités à leur charge, moyennant 25 ou 30% sur le remboursement final. C'est quand même assez simple à utiliser, donc c'est souvent une bonne chose.
Alors venons-en maintenant aux banques qui elles aussi ont leurs difficultés et du coup le font payer finalement aux consommateurs. Les frais bancaires qui avaient été plafonnés cette année, c'était un peu l'effet je dirais gilet jaune, pourraient redémarrer.
Alors effectivement, à la fin de l'année 2018, le gouvernement, sous la pression des gilets jaunes, avait un peu forcé la main aux banques pour les obliger à geler leurs augmentations de tarifs. Cette année s'achève, l'année 2019 s'achève, on commence à voir les premières plaquettes 2020 des banques arriver, et on voit que, en tout cas, les banques traditionnelles essaient de se rattraper sur cette année perdue. Alors ça se fait pas forcément sur tous les services bancaires, les services les plus fréquents sont globalement assez stables. Il y a une petite inflation, mais pas scandaleuse. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'elle se rattrape sur 3 choses. La première chose, c'est les frais annexes. C'est-à-dire, par exemple, vous perdez votre carte bancaire, on va vous faire payer plus cher le remplacement de la carte bancaire. Vous avez besoin d'un chèque de banque pour acheter une voiture d'occasion, ça sera plus cher que l'année dernière. Voilà, par exemple, pour les frais annexes. La deuxième chose, ce sont sur les frais de transfert. Ça, c'est plus gênant parce que qui dit frais de transfert dit exercice de la concurrence. Donc aujourd'hui, et en tout cas à partir de 2020, si vous voulez passer votre PEL de votre ancienne banque à votre nouvelle banque, ça va vous coûter sensiblement plus cher qu'en 2019.
Et puis sur les frais d'incident aussi, bien sûr.
Et les frais d'incident qui, pour une certaine partie, sont plafonnés. Là, on est sur une problématique un peu différente puisque l'UNAF, qui est une association de consommateurs et de droits de la famille, et 60 millions de consommateurs ont fait un testing qu'ils ont dévoilé pas plus tard que la semaine dernière. Ils se sont rendus compte que pour les clients fragiles qui aujourd'hui bénéficient d'une réglementation très protectrice, puisque globalement ils peuvent pas payer plus de 25 € par mois pour leurs frais d'incident. Dans la réalité, quand on va dans les agences, qu'on a une situation très dégradée et qu'on rencontre son conseiller, dans 78% des cas, le conseiller ne fait pas le travail pour permettre aux gens de payer moins cher.
Et puis les 20 jours qui étaient obligatoires avant prélèvement en cas d'incident sont très rarement respectés. Généralement, on vous prélève tout de suite.
Alors ça, c'est une question effectivement qu'on s'était posée, notamment chez Moneyvox. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, les 20 jours sont respectés, mais avec un problème qui est que l'information qui vous dit que dans 20 jours,
elle
on va vous prélever.
Elle arrive trop tard.
Alors, c'est pas qu'elle arrive trop tard, du tout, c'est qu'elle elle arrive sur les relevés de compte. Ouais. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des gens passent sur Internet et que les relevés de compte, on ne les regarde plus puisqu'on a le détail tous les jours de ce qui passe sur ces opérations. Ouais. Donc l'information sur le fait que dans 20 jours, on va vous prendre 20, 50 ou 100 € au titre des frais d'incident, on ne la voit plus passer.
Pour terminer sur les banques, il y a aussi cette question à partir du mois de septembre, donc ça devrait être déjà mis en place. Il y a un double système de vérification qui a été imposé par une directive européenne, si je comprends bien, et qui nécessiterait qu'on ait une double vérification en cas d'utilisation de sa carte sur Internet.
Alors effectivement, pour les paiements en ligne, les autorités européennes se sont rendues compte que le système de SMS qu'on reçoit depuis quelques années n'était plus suffisant pour assumer la sécurité des moyens de paiement. Ce qui fait qu'au final, aujourd'hui, on a une fraude sur les paiements en ligne qui est 16 fois supérieure à la fraude que vous avez en face à face. Donc il y a une directive qui a été discuté pendant des années et qui a été mis en application, en tout cas en partie, à partir du 14 septembre dernier, et qui oblige pour les paiements en ligne à avoir un deuxième niveau de sécurité. Donc c'est ce qu'on appelle la DSP2, la directive sur les services de paiement numéro 2, pour lequel, pour les paiements en ligne via carte bancaire, vous aurez soit un code confidentiel à rajouter, soit utiliser une empreinte biométrique, donc le plus souvent l'empreinte digitale.
Mais c'est déjà le cas dans plusieurs banques, hein, elles ont commencé à le mettre en œuvre, non ?
Alors effectivement, c'est déjà le cas, mais néanmoins, sous la pression des banques qui souvent n'étaient pas prêtes, puisque ça devait se faire il y a un mois et que la plupart des temps, banques n'étaient pas prêtes, mais également des commerçants en ligne qui avaient peur que leurs clients soient désarçonnés par les nouvelles procédures et abandonnent leur paiement. L'entrée en vigueur définitive a été repoussée à fin 2020. Tout ça pour laisser le temps aux gens de s'habituer. Il faut savoir que rien que le SMS avait mis des années à s'imposer parce que les banques n'avaient pas réussi à s'entendre pour imposer un moyen de contrôle commun.
Sur les banques aussi, il n'y a pas que les particuliers, il y a aussi les entreprises. Et là, les banques des pros, de plus en plus chères, difficiles à choisir malgré les nouvelles banques totalement en ligne. Et là, c'est un problème qui rejoint celui des startups et du numérique et de ce secteur, puisque les choses sont relativement plafonnées et contrôlées lorsqu'on est un individu, très peu lorsqu'on est une société.
Alors effectivement, le droit français et le droit européen fonctionnent de telle sorte que quand vous êtes un pur consommateur, vous avez beaucoup de droits qui sont pas toujours appliqués malheureusement, mais en tout cas qui existent. Alors que comment vous commencez à être un petit professionnel, là, vous n'avez plus aucun droit. Et les frais payés par les petits professionnels, ça peut être des professions libérales, des auto-entrepreneurs, sont extrêmement élevés et peuvent parfois peser très lourd dans le résultat des entreprises et dans leur développement. Traditionnellement, ce sont les banques traditionnelles qui tiennent encore le marché et qui facturent ces frais extrêmement élevés. Aujourd'hui, on commence à avoir une concurrence qui se met en œuvre. Ce sont des boîtes comme Conto, Manager One, mais aussi des banques en ligne comme Boursorama qui ouvrent à certains entrepreneurs, petits entrepreneurs. Mais le chemin reste encore très long pour que la concurrence puisse bien fonctionner là-dessus.
Maxime Chipoy, directeur de Moneyvox.fr, site d'information sur le budget. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Pour terminer cette émission ce soir, Pierre Louette, rebonjour. Vous êtes PDG du groupe Les Échos, Le Parisien. Vous avez reçu pour parler de votre groupe et de ses journaux il y a quelques mois. C'est pas à ce titre, un peu quand même, mais qu'on vous invite ce soir, mais pour parler de la bataille que vous avez engagée, pas tout seul, avec d'autres patrons de presse, contre Google, notamment suite à la loi, on en a parlé tout à l'heure, la loi sur les droits voisins qui vous permet de vous faire rémunérer potentiellement pour un certain nombre d'extraits de presse ou de photos qui sont en ligne, notamment sur Google Actualité. Quel est l'état du débat pour l'instant?
Voilà, c'est plutôt un débat parce que après les vraies batailles dont on a parlé concernant le Chili, où il se passe quand même des choses très graves dans la rue, ou éventuellement les batailles du droit de la consommation que vous mentionniez, là on n'est pas dans une bataille, on est dans un vrai débat, et un débat de principe. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler ce soir. Il y a eu une discussion pendant des années dans le contexte européen, commission, parlement, conseil, pour adopter une directive qui est une sorte de loi européenne qui crée une nouvelle catégorie de droits qui sont des droits d'auteur réservés aux éditeurs.
Les droits voisins.
Les droits voisins. Ça existe déjà d'ailleurs, pour ramener l'inconnu au connu, ça existe déjà dans le monde de la musique où il y a des droits voisins pour les éditeurs, les maisons de disques et puis des droits pour les auteurs comme Jay-Z qu'on écoutait tout à l'heure et d'autres.
C'était Kanye West, mais c'est un peu, ils se ressemblent.
Ils étaient voisins.
J'écoutais pourtant.
Il y en a un de gauche et l'autre de droite. C'est la grande différence.
Jésus était parmi nous tout à l'heure. Donc ça, c'est une novation dans le droit européen. Ça a été transposé, parce que les directives, il faut les transposer dans le droit national en France, donc fin juillet. La France est le premier pays à avoir transposé. Et ce qui se passe est très simple, c'est que les grandes plateformes, Google en particulier, Facebook aussi, on ne connaît pas très bien la position des autres encore, donc ce grand duopole-là, il ne voulait pas de la directive, il ne veut toujours pas de la loi.
Et ils ne veulent pas l'appliquer.
Voilà.
Alors, ils veulent pas l'appliquer. Alors, c'est présenté de façon tout de même plus subtile. C'est nous ne souhaitons pas rentrer dans ce débat-là, disent les uns, et les autres disent on va modifier notre produit pour ne pas être obligé au fond d'appliquer cette loi. Et à chaque fois, on vous dit, vous les éditeurs, si vous voulez, vous pouvez ne plus être présenté sur Google, dans les moteurs de recherche comme Google, qui a 75, 80%, 90% du marché en France, vous ne pouvez plus être présenté intégralement. Et donc, vous risquez, c'est ce qu'on comprend nous, c'est ce qu'on sait, de perdre beaucoup de votre trafic. Et l'état, au fond, dans lequel on est celui d'une... On est face à une puissance qui est une puissance dominante sur le marché. Et nous, on est dans un état de dépendance économique.
Mais alors, si on veut un peu jouer l'avocat du diable, il s'agit de très petits résumés, c'est-à-dire deux, trois lignes, parfois même pas, qui ne suffisent pas en général. On ne peut pas lire l'article à partir de ça. Donc, on est dans Google Actualité. On a une photo très petite. Elle n'est pas de très bonne qualité. Il y en a trois lignes. En cliquant sur cette ligne...
Elle est de bonne qualité, pourquoi
pas ? Non, elle est toute petite, c'est ça que je veux dire. On clique dessus, on tombe sur la page des échos du Parisien de Libération du Monde. Et là, c'est vous qui décidez. Vous décidez de le rendre payant ou pas. Donc, Google se contente au fond d'indexer vos articles et de permettre au lecteur d'aller chez vous. Pourquoi est-ce qu'il devrait vous payer pour ça ?
Alors, je comprends le rôle d'avocat du diable, mais en réalité, le modèle économique de Google, typiquement, est celui de quelqu'un qui aspire tous les contenus du monde. C'était d'ailleurs l'ambition initiale des fondateurs. Ils ont fait exploser les ordinateurs de Stanford en absorbant tout l'Internet, comme ils disaient à l'époque. Et puis ensuite, tout ce contenu est monétisé, le mot est affreux, mais bon, il est désormais utilisé souvent, par de la publicité. Et donc tous ces contenus, Google a pour principe de ne jamais les payer. Donc c'est un principe très fort chez eux. Et on comprend d'ailleurs, c'est tellement magnifique ce système et ce business model dans lequel on ne paie rien, on monétise tout et on arrive effectivement à avoir 23% de résultats nets sur le chiffre d'affaires, donc une rentabilité formidable. Elle n'est dépassée que par celle de Facebook avec 39%. Voilà. Donc c'est un modèle parfait et on comprend assez aisément qu'il n'ait jamais envie de payer. Là on ne parle même pas de payer des contenus, on dit qu'il y a des droits. C'est pas tout à fait pareil. On demande pas.
Oui, mais la loi, ce qui a été décidé, qui rentre dans le droit français, c'est pas de l'obligation de pour Google d'indexer ces articles-là. S'ils disent vous voulez pas qu'on soit indexé, on vous indexe pas.
Pas du tout. C'est pas ça. C'est pas exactement ça. Ils indexent qui ils veulent dès lors que leurs crawlers passent dans nos sites. Simplement, ils disent si vous voulez que soit vu au-delà juste d'une adresse et d'un titre un début de vos contenus, et on sait qu'un début de contenu, ça donne un petit peu quand même envie d'aller plus loin et de lire les articles.
Oui, mais ils pourraient vous le faire payer, ce travail, renversant la...
Mais Frédéric Martel, eux, après, monétisent.
Oui, mais c'est un travail. Oui, mais c'est un travail. S'ils veulent pas le faire, quelle est la raison pour laquelle vous leur demandez de payer?
C'est... Encore une fois, ça se présente pas comme ça, mais c'est dommage parce que vous allez introduire beaucoup de confusion dans ce débat. Les choses sont assez simples. Il y a des robots qui aspirent des contenus. Et puis, aujourd'hui, la loi dit que si ces contenus sont donnés à voir à des consommateurs, eh bien, ça crée des droits. Dès lors que vos contenus sont donnés à voir, y compris ceux de Radio France, d'ailleurs, je vous le souhaite, eh bien, ça ouvre des droits. Radio France, d'ailleurs, comme nous, prend cette position en disant, voilà, cette loi est passée, il y a des droits voisins, et on a face à nous un acteur qui dit, moi, je ne veux pas appliquer la loi, donc, je vous demande à vous de dire que si vous voulez que ces contenus soient affichés, vous renonciez à vos droits.
Mais il dit pas, je ne veux pas appliquer la loi. Il dit simplement, si j'indexe et que je mets ces extraits, vous me demandez de payer. Donc moi, je ne mets plus ces extraits.
Ce n'est pas que je vous demande de payer. On dit que la loi a également prévu, peut-être l'avez-vous pas regardé totalement, mais eux un peu plus, que l'application de cette notion d'extrait ne peut pas conduire à annihiler la rémunération.
Mais ce débat a déjà eu lieu plusieurs fois. Il a eu lieu en Espagne, il a eu lieu en Belgique. Dans tous les cas, les patrons de presse ont perdu parce que justement, à la clé, Google peut juste ne plus vous indemniser et ne plus vous indexer.
Non, c'est pas du tout indemniser. C'est pas du tout le même débat. C'est quand même, ça fait plaisir parce qu'on va devoir en 12 minutes rétablir pas mal de choses totalement fausses et c'est un problème un peu compliqué. En Espagne, il n'y avait pas encore la directive européenne. Convenons quand même que c'est une situation un peu différente.
Ouais.
Voilà. Donc là, il y a une loi, Frédéric. Voilà. Il y a une loi. Cette loi, elle doit s'appliquer. Elle a été transposée en France et on a effectivement un acteur qui dit. Et encore une fois, il est constant dans sa position. Il ne voulait pas de la directive, donc il ne veut toujours pas de la loi. Ça, on ne peut pas dire que ce soit une immense surprise. Voilà. Simplement, c'est le début d'un processus. On sait par ailleurs qu'ils sont prêts à discuter d'autres évolutions. Dans le passé, moi, je sais qu'ils sont capables aussi de rémunérer des contenus par d'autres façons. Mais là, face à cette loi qui est entrée en vigueur, ils ont dit, nous, on va s'organiser pour rendre les choses infiniment compliquées. Et surtout, on va vous dire à vous, renoncez à vos droits et ainsi vous serez visible. renoncer à vos droits pour être visible dans une dans un format.
Et en même temps, la presse depuis des années joue avec ça. Elle joue avec ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire la manière d'être optimisée sur les réseaux sociaux. Elle joue sur les millions, le mitraillage de cookies qu'on a. Tout ça, c'est la presse qui nous l'impose. Donc tout ça, vous l'avez fait pour coller à Google et maintenant vous leur demandez de compenser. Donc il y a une sorte de, vous avez joué un peu avec le feu. Vous en avez besoin aujourd'hui et donc tout le monde est un peu piégé dans ce débat.
Alors, il y a une chose vraie dans ce que vous évoquez, c'est que la presse, qui est en pleine transformation digitale, comme on dit, nous, on doit aller de Gutenberg à Zuckerberg, on doit passer d'un monde très...
au patron de Facebook.
Papier, ouais. Voilà, à un monde qui est dominé par deux grandes plateformes. Tout se passe comme si Google avait privatisé la fonction de recherche dans le monde, et tout se passe comme si Facebook avait largement privatisé l'agora du monde. Donc, on est face à ces deux superpuissances-là. Depuis des années, on essaie de trouver des modèles, et effectivement, on est entré dans une relation... Ils ont des participations.
Est-ce que c'est pas un rapport de force du coup que vous essayez de...
C'est justement, vous avez dit le mot merci parce que ça m'évite de le faire. C'est un rapport de force. Donc on est exactement dans une situation dans laquelle vous avez un acteur dominant et qui est dans un rapport de force qui est défavorable aux éditeurs. Et les éditeurs doivent passer sous les fourches codines de ces géants qui disent « sinon vous serez beaucoup moins visible et vous y perdrez encore beaucoup de revenus ». Alors ce que je voulais dire simplement aussi, parce qu'on a parlé du Chili, on a parlé d'enjeux de démocratie profondément actifs aujourd'hui. Oui. S'il y a moins, et vous disiez « il faut des bons journalistes pour faire un gros travail journalistique », le sujet qui est posé aujourd'hui, c'est ça, c'est... On est dans une difficulté à assurer encore un travail journalistique et à financer plein de rédactions avec des journalistes nombreux. On est dans cette difficulté-là. Peut-être faudrait-il quand même que les plateformes fussent régulées. Peut-être faudrait-il qu'elles soient effectivement soumises aux lois. Moi, je ne veux pas vivre dans un monde dans lequel on est face à des supranationales. Mais c'est même pas des multinationales.
Au fond, on est d'accord sur ça. On est d'accord là-dessus. Il y a un problème d'abus de position. D'abus de position dominante. Il y a un problème de payer des impôts qu'ils ne payent pas. Il y a un problème de multiplication des services. Ce qui fait qu'ils peuvent jouer à la fois sur Google Actualité, Google Maps, etc. Mais est-ce que ce n'est pas ce point-là précisément un faux combat et un combat que vous allez perdre? C'est ça le point.
C'est un des nombreux combats. Je voyais que Cédrico, pendant qu'on parlait, appelait à une régulation des plateformes européennes. Je sais que Thierry Breton est quelqu'un qui est tout à fait capable.
Il vient d'être nommé commissaire européen.
Ouais. Il va être nommé probablement. En tout cas, il est tout à fait capable, parce qu'il a une énorme expérience et beaucoup, beaucoup de force de conviction de porter ce genre de combat. Et ce sera une partie de son portefeuille. Je souhaite qu'il le fasse. Donc oui, il y a un ensemble de dispositions. On doit faire rentrer ces plateformes dans l'atmosphère. On doit les intégrer au fond dans un droit positif et un ordre économique.
Et dans la régulation.
Pas uniquement le leur. Et dans la régulation. Sur ce point-là, exactement, moi je considère quand même que il y a une loi, il faut qu'elle vive, sinon on a un petit problème de souveraineté aussi quand on vote des lois. Et ça pose, semble-t-il, un problème, au-delà de ce que vous disiez, à l'ensemble de la représentation parlementaire dans ce pays, qui a fait un communiqué uni, enfin, en disant, on comprend pas, on vote une loi et on a des acteurs qui...
Oui, le ministre de la Culture, d'ailleurs, vous le ministre,
les deux, l'Assemblée, le Sénat. Oui, bien sûr, tout le monde se dit, on ne peut pas être face à ces supranationales, et je trouve qu'il y a une forme d'arrogance. Je pense que c'est un petit peu un coup trop loin pour elle. Ça va trop loin aujourd'hui.
Maxime Chipoy, réaction
une
très brève.
Question, la presse française a quand même une certaine force de frappe. Quelle est éducation pour le public, puisque Google, ça fait quand même 10 ans que ça existe. J'ai rarement vu des articles expliquant qu'il ne faut pas cliquer sur les résultats où il y a marqué annonce.
Mais nous, on ne mène pas une guerre contre Google. Je ne comprends pas ce que vous dites. En France, encore plus que dans d'autres pays, c'est ça le sujet. C'est un peu le problème qui est posé. C'est comment vivre dans un monde dans lequel quelqu'un a 90% de la fonction de recherche et sur les téléphones portables, deux acteurs ont 95% des revenus. C'est ce problème-là qui doit être attaqué encore plus que le reste.
Voilà, merci infiniment, 19h29, on en reste là pour ce soir. Merci à Maxime Chipoy, Gaspard Koenig, Monica Gonzalez qui reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission et Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos. Le Parisien manquait un peu de temps ce soir, pardon, pour tout ça. La semaine prochaine, en Soft Power, on consacrera cette émission à l'éducation, justement, aux médias. Vous nous avez fait une transition toute trouvée dans un instant, Carbone 14. Et en attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.